On s'en va dans Romains au chapitre 6. Pendant que vous tournez là, vous rappelez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière quand on a lu Romains? Avec le mot péché. On a remplacé péché qui est général, puis on pourrait dire, là j'avais dit peur. On pourrait le refaire en lisant amertume, colère.
C'est intense, la peur, ça vient nous chercher.
Ouais, ben en tout cas, on peut le faire avec n'importe quel mot qui peut... Peut-être nous autres nous rejoignent plus. Là, on va pas lire tout le passage au complet, parce qu'on va, dans le message, on va tout lire les versets de verset 1 à 14. Là, on va juste lire les deux premiers versets, puis on va faire l'exercice.
Romains 6.
Fait que Romains 6, 1, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans l'amertume, dans l'angoisse, dans la colère? Demeurions-nous dans la peur, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts à l'amertume, qui sommes morts à l'angoisse, à la peur, comment vivrions-nous encore dans cette amertume, mort, peur? Voyez-vous comment c'est un appel au gros bon sens? Ben voyons, on est mort, pourquoi on vivrait encore dans ce pourquoi dans quoi on est mort? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu tantôt, on va regarder la dynamique des versets, comment il y a vraiment une logique. Paul avait une logique dans son développement qui est important de comprendre ici dans les 14 premiers versets de Romains. Et vous savez comment que certains appellent Romains 6 ou ce dont on parle, il y en a qui appellent ça la bonne nouvelle aux saints, okay? L'évangile aux saints. C'est que l'évangile, c'est la porte d'entrée de la vie chrétienne. Mais c'est aussi, c'est tout le reste. C'est que c'est par la grâce, au moyen de la foi. C'est Christ. C'est Christ qui est mort pour moi. Puis la vie chrétienne, on se rend compte, ben oui, puis en plus, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort avec Christ, mort au péché. Fait que c'est ça qu'on regarde ensemble. Simplement, ce qu'on va faire après-midi, c'est descendre notre passage en regardant les versets en trois grandes catégories. Versets 3 à 10. Qui s'adresse à notre pensée. Verset 11, qui s'adresse, qui a la pensée, mais qui implique l'aspect émotionnel, l'aspect conviction, motivation. C'est plus que juste de l'intellectualisme. Il y a vraiment un côté de cœur là-dedans. Puis verset 12 et 13, la volonté. Donc, pensée, émotion, volonté. OK, on va regarder ça ensemble. Là, je vous ai donné le topo. Plongeons. D'abord, on voit dans les versets 3 à 10, la réponse de notre pensée à ces vérités-là, de notre union avec Christ. Et ici, ça dit, au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Ici, ça dit « Ignorez-vous ». Ça réfère à la connaissance, à connaître des faits, à savoir des choses. Donc, êtes-vous ignorant de ces choses? Est-ce que vous savez ces choses? Et ce concept-là de connaître des choses, c'est au verset 3, au verset 6, puis au verset 9. C'est pour ça que je dis que verset 3 à 10, ça fait vraiment appel à ce que Dieu veut qu'on comprenne. Parce qu'à trois reprises, il dit, savez-vous ça? Vous devez savoir ça. Parce que là, il s'est dit, ignorez-vous, puis à les deux autres fois, ça dit, sachant. Donc, Dieu veut qu'on sache des choses comme étant des faits. C'est drôle parce que nous, c'est, bon, il y a ignorez-vous, puis sachant, puis c'est trois mots grecs différents. Je dis ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là, mais peut-être qu'on va le voir plus tard. Mais non, je ne dis pas, je fais des jokes, mais c'est trois mots qui ont rapport à la connaissance, mais ce n'est pas les mêmes mots. Il y a beaucoup de mots pour les Grecs qui étaient bons dans la connaissance, ils ont beaucoup de mots pour référer à connaissance, savoir. Tu sais, comme nous on dit savoir, connaître, ben, il y avait ça aussi dans le grec. Fait qu'en tout cas, là on va regarder simplement, par rapport à notre pensée, dans les versets 3 à 10, trois faits qu'on doit savoir, qu'on doit connaître. Par rapport à notre union avec Jésus-Christ. OK? Fait numéro 1. Tous les chrétiens sont des saints. Vous allez voir pourquoi. Tous les chrétiens sont des saints. Au verset 3, on l'a lu, mais on va le relire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ici, il fait simplement proclamer la vérité. On a été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Okay, c'est la première vérité qu'il veut qu'on sache. Lorsqu'on est sauvé, on est placé en Jésus-Christ. L'idée de baptême, c'est d'être immergé, d'être plongé, d'être placé. D'être mis dedans. OK? Là, je n'irai pas sur toute l'étymologie du mot baptême. C'est un mot qui a été utilisé dans le contexte religieux. C'était aussi utilisé dans un contexte séculier. Mais vraiment, le concept dans lequel c'est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est vraiment cette idée-là d'être immergé, plongé. Ou tu sais, des fois, on va dire, j'ai eu mon baptême de l'air. C'est-à-dire, pour la première fois, j'ai pris l'avion ou j'ai sauté en parachute. Là, puis, ou ça dit aussi dans les évangiles, ça dit ceux qui ont été, non, en tout cas, ça dit à quelque part dans le Nouveau Testament, ceux qui ont été baptisés en Moïse. C'est-à-dire, ils ont expérimenté, ils ont vécu à plein, ils ont fait partie de cette expérience d'être avec Moïse pour la traversée de la mer. Donc, fait numéro un, nous sommes tous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, des saints. Notre identification à la mort de Jésus nous identifie aussi à sa vie. Et c'est-à-dire, on est mort avec lui, c'est-à-dire, on est mort comme si Jésus, c'est notre tête, c'est notre représentant. Quand il est mort, on est mort avec lui. Là, on va voir ce que ça implique, parce que je viens de vous donner le fait, mais là, je l'explique. La vérité, c'est ça. C'est qu'on était baptisé en sa mort. OK? Maintenant, le but de ça, ça dit, nous avons donc été ensevelis avec le baptême en sa mort. Puis là, regardez le mot, afin que. Donc, il y a un but. On est mort, mais il y a un but à ça. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le but d'être mort avec Christ, c'est afin de pouvoir vivre avec lui. On n'est pas juste mort de même, puis bon, c'est la fin de l'histoire. Puis comme Jésus n'est pas juste mort, puis c'est la fin de l'histoire. Non, il est ressuscité. Ben nous aussi, on est mort avec Christ afin de pouvoir vivre en lui. Fait qu'on est plongé en lui, on est baptisé en sa mort afin de pouvoir vivre en lui. Puis on continue au verset 5. Ça continue à encore plus expliquer, donner la raison de tout ça. En effet, si nous sommes devenus une même plante, voyez-vous la notion d'unité, d'union avec Christ, une même plante, avec lui dans la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Donc, l'idée de « en effet » ou « car » ou « ok » pour donner la raison de tout ça, la mort et la résurrection de Jésus sont interreliées. Et ma mort avec Christ et ma résurrection avec lui sont ainsi sont interreliés. Parce que ma mort avec Jésus, ça l'exige que je naisse de nouveau en lui. Un produit l'autre. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu dans ma vie, quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, je suis devenu un saint. Saint, ça ne veut pas dire Saint-Guillaume, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Gabriel de la Jacques-Cartier. Saint, ça veut dire mis à part. Saint, ça veut dire que tu étais là dans le monde, tu étais en Adam. Puis là, Dieu t'a pris puis il t'a placé en Jésus. Puis là, tu es une nouvelle création, tu marches dans le nouveau. Tu es saint, tu es à part. Comme Dieu est saint. Pensez, en anglais, on dit otherness. Autre chose-esse. Non, mais tu sais, saint, là, c'est dire que c'est Dieu est autre. Il est à part. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un qui est saint, c'est-à-dire, il ne fait pas partie de la gang qui est là, régulier, il est complètement à part. Ben Dieu nous a pris dans le monde régulier, OK? Puis il nous a mis complètement à part. On est des saints. Par vocation, la Bible nous dit. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi?
Oui.
Bon, good. Ça va bien. Fait que Dieu, pour le dire dans d'autres mots, il nous a séparés d'Adam. Il nous a séparés, on n'est plus en Adam, on est rendu en Jésus. Puis là, c'est pas comme, mais j'ai encore un petit orteil en Adam parce que des fois, je fais des péchés. Non, 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 non. C'est fini ça, les affaires d'Adam. Là. Quand t'es en Jésus, t'es plus en Adam, t'es séparé, c'est fini là. C'est fini d'être en Adam, t'es placé maintenant dans celui qui est ton nouveau représentant, ta nouvelle tête, c'est Jésus. OK? Dieu nous a placés en Jésus. Ian Thomas. Lui aussi a écrit des bons livres sur ce dont on parle. Il s'appelle Major Ian Thomas. Major, je pense, c'est dans l'armée, un major, hein? En tout cas. Jésus s'est donné pour nous afin de se donner à nous dans le but de vivre sa vie à travers nous. Donc, Jésus s'est donné pour nous afin de se donner à nous dans le but de vivre sa vie à travers nous. Donc, Maintenant, là, si on regarde en termes spirituels, notre esprit est plus mort, notre esprit est régénéré. On était mort dans nos offenses et nos péchés par l'incirconcision de notre chair. Je veux dire, il n'y avait pas de communication entre nous et Dieu. Dieu nous a rendu à la vie, il nous a donné la vie. On a une nouvelle nature, le nouvel homme, et on a aussi un nouveau maître, le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force, une puissance. C'est Dieu lui-même qui est notre nouvelle identité, notre nouveau maître. Pour ça qu'on disait tantôt, on n'a plus besoin de la loi extérieure de dire « fais ci puis ça ». Il est en nous. Puis il a écrit la loi dans nos cœurs. Rappelez-vous, j'avais donné l'illustration. Si, mettons, à cause que l'amour de Christ nous presse, on a une nouvelle motivation. Si deux amoureux se rencontrent, ça fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus, ils se disent « Hey là, tu sais, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, on devrait peut-être faire une colle, on devrait se faire une colle ou un bec sur la joue, serait-ce approprié de donner un bec sur la bouche? » Non, tu t'aimes, tu dis « Wow, tu te donnes! » OK? Ben c'est ça, Dieu n'a pas besoin de nous dire, parce qu'on veut, tu sais, son esprit en nous est notre nouveau maître, puis lui nous dirige dans toute la volonté de Dieu. C'est bien mieux que juste quelque chose d'extérieur, c'est rendu intérieur. Donc, fait numéro un, nous sommes des saints. À part, OK? Catégorie à part. Puis c'est pas pour se penser bon, c'est pour donner gloire à Dieu. Quand il fait de quoi, il fait pas à peu près. Il nous a pris de Adam, puis il nous a placés en Christ. C'est grandiose. Puis en passant, ça se défait pas. Ça se perd pas.
Non.
On peut pas perdre notre salut. On peut pas être en Christ, puis revenir en Adam. Il y a pas une place dans la Bible qu'on voit ça, là. Je veux dire, Dieu, ça se peut pas. Fait numéro 2, tous les saints sont libres de vivre dans la victoire. Oh, là, par exemple, tu dis, ben ouais, mais moi, j'ai de la misère, puis des fois, je tombe, puis... OK, attendez un peu, là. Parce que ça, moi, je le pense quand je vois une affaire de même. Ah non, mais moi, je suis pas tout le temps... Oui, mais on est libre. Fait que là, je vais vous expliquer ça avec les versets qui suivent, qui sont très importants. C'est le cœur de Romains. Si on comprend pas les versets 6 à 8, on passe à côté de l'enseignement majeur. Là, j'ai besoin de toute votre attention. Romains 6... 6, le début du verset, ça dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié. » Est-ce que c'est présent ou c'est passé?
Passé.
Certaines versions veulent le mettre au présent, mais c'est passé. Dans le grec, c'est au passé, OK? Aoriste, fait, c'est un acte accompli, OK? Mais ici, ça dit « Sachant ». Ça, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on sache encore à qui on parle. Puis ici, c'est un autre mot, là, ginosko, même je vous le dirais, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un autre mot pour connaissance, sachant. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on sache que ce que nous étions, notre esprit non régénéré, a été crucifié avec Jésus-Christ. Notre vieil homme, notre nature adamique, ce que nous étions en dehors de Dieu, là, dans nos offenses et nos péchés, et qui était séparé de Dieu, ça a été crucifié avec Christ. Okay? Notre vieil homme, là, c'est ce qu'on était. Et ça, c'est la première affaire que Dieu veut qu'on sache. Okay? On était morts dans nos offenses et nos péchés. Puis là, avant de nous donner la vie, Dieu nous a fait mourir avec lui. Dieu veut qu'on sache ça. C'est comme si on est mort deux fois d'une façon. T'sais, on était mort dans nos offenses et nos péchés. Là. On est né dans ce monde comme étant un peu mort-vivant. Mais là, Dieu nous a pris et nous a fait mourir encore. Mais il nous a fait mourir à ce qu'on était en Adam. Il y a une double mort là-dedans. Là. Vous dites, c'est pour ça qu'il faut lire puis relire. Ça sonne bizarre, mais c'est pas bizarre. C'est ce que Dieu a fait. Okay? Bon, ça c'est la première chose. Puis, ensuite, ça dit, la deuxième partie, ça dit « afin que ». Donc, pourquoi Dieu il nous a pris ce qu'on était en Adam puis il a fait mourir ça? Dans le but de, le but que Dieu faisait mourir, ce qu'on était avant, Dieu n'a pas dit, oh, on va améliorer. Non, non, il n'y a rien de bon avec ce qui est en dedans, il faut que ça meure. Okay? Mais il y avait un but avec ça, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le but de ce que Dieu a fait en nous faisant mourir avec lui, en faisant mourir notre vieil homme, qui a été crucifié avec Christ, c'était afin que le corps du péché, là, c'est pas comme le vieil homme. Le corps du péché, c'est ma chair. Le corps du péché, là, c'est ce que moi, là, je fais dans ma volonté propre humaine. OK? Afin que le corps du péché soit cataguisé, réduit à l'impuissance. Parce que c'est un mot, ça, qui, des fois, ça dit... ça veut pas dire anéanti. C'est pas comme si Dieu a pris ma chair, puis là, il n'y en a plus de chair. Mais ce qu'il a fait avec ma chair, il a donné un coup assez solide qui est mise hors de portée de nuit. C'est ça que ça veut dire. Fait que Dieu s'est occupé de ce que j'étais Adam afin de me libérer de l'emprise de ma chair sur ma vie. De l'emprise du péché, pour plus que je sois esclave du péché. Donc, j'ai été co-crucifié avec Christ. Puis ça, ça l'a porté un coup fatal. Tu sais, comme à la boxe, là, pac, tu donnes un coup au gars, puis il tombe à terre. Là. C'est ça que Dieu a fait. Quand il nous a crucifié avec Christ, ça l'a donné un coup fatal à notre chair, elle tombe à terre. Puis si on la voit, puis on la cajole, puis on dit, bon, on va peut-être un peu grouiller encore, mais Dieu l'a mis hors de portée de nuire. OK, c'est ça l'idée de Katargeo. La crucifixion, la mort de notre vieil homme, de notre esprit non régéné, nous a libérés de la tyrannie de notre ancien maître, le péché en nous. Tu sais, vous rappelez-vous, j'ai dit qu'il fallait que Dieu s'occupe de nous-mêmes. Il y avait non seulement les péchés que nous faisions, mais tu sais, le péché en nous, là. Ben, Dieu, comment qu'il nous a libérés de cette emprise, de ce qui dominait de même, il a fallu qu'il s'occupe de ce qu'on était dans notre nature même. Puis là, le péché a pu ce règne-là. Parce qu'avant, là, OK, si quelqu'un ici, là, se rappelle, avant d'être sauvé versus après, les péchés qu'on faisait, là, ça ne dérangeait absolument pas. Vous rappelez-vous, je l'avais dit, des gens qui disent « Ah, oh, j'haïs mon péché, j'aime mon péché, puis je m'haïs. » C'est un mensonge, parce que quand on est un enfant de Dieu, on l'haït notre péché. On serait pas là en parler à quelqu'un et à dire « Coudonc, je suis donc bien tanné ce péché-là, parce qu'avant, on l'aimait. » Quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui est non régénéré, il aime son péché. Puis, pas aimer ce qu'on est, ben dans le fond, si on comprend ce qu'on est en Jésus-Christ, ben on aime ça. C'est ce que Dieu a fait de nous, une nouvelle création. Comprenez-vous? Fait que tout ça, ça change complètement la façon qu'on peut voir la vie. Donc, Dieu nous a libérés de la tyrannie de notre ancien maître, le péché en nous, le péché dans nos membres. OK? C'est pas qu'il est plus là. C'est que Dieu, il a donné un coup fatal. Et au verset 7, on pousse la réflexion en amenant encore plus la raison de ce qui vient d'être expliqué au verset 6. Car, fait qu'on a une raison, car si nous sommes morts avec Christ, nous croyons... Ah, excusez, verset 7. « Car celui qui est mort est libre du péché. » C'est-à-dire que par la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a séparés du péché en nous, et donc il n'est plus notre maître. Okay? Donc, ça rephrase ce que j'ai dit juste avant. « Celui qui est mort est libre du péché. » Autrement dit, si le péché, là, il vient voir la bonne vieille nature adamique, puis « Hey, là, fais donc ça. » C'est comme s'il essaie de ranimer un mort. Il est mort. OK? Fait que il n'y a plus d'emprise. Maintenant, je vais dire quelque chose d'important dans une seconde. Ah, ça fait deux. C'est encore plus important. Il nous a séparés de l'ancien maître qui est en nous, donc il n'est plus notre maître. Le péché n'est plus notre maître. Méditez là-dessus. On n'est plus redevable. Mais comment des fois on traite le péché? Ah, ben j'ai tout le temps été de même, puis ah, c'est ma faiblesse. On le traite comme si c'est lui qui nous dirigeait. Le péché, là, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un intrus dans notre vie. Puis, OK, il peut avoir une influence sur nous, puis on n'est pas au-dessus de la mêlée comme si le péché, mais on ne devrait pas le traiter comme s'il est un maître. Il est vaincu. Le péché en nous n'a plus à dicter rien. Parce que Dieu s'est occupé de lui. Fait que déjà, mentalement, quand on sait ça, le péché n'est plus mon maître, j'ai plus de compte à y rendre. Là-dessus, écoutez ce que ça dit au chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Je veux dire, j'ai plus rien à faire avec cette vie-là, c'est mon ancienne vie. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, on apprend à vivre à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ. On a appris Christ. Appris à vivre selon le fait que Dieu nous a fait mourir avec lui et que maintenant nous sommes vivants en lui. Et il y a une deuxième raison qui est donnée au verset 8, chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Notre séparation avec notre ancien maître, le péché, est suivie de notre union à Jésus-Christ. Et ça, c'est immédiat. Ça parle ici au futur parce que, ultimement, notre union parfaite avec le Seigneur, ça va être au ciel. Mais même ici-bas, sur terre, on peut déjà jouir de cette union-là avec lui. Et ça, c'est la pensée que on doit s'approprier. Je résume tout ce que je viens de dire. Puis là, je comprends. Là, je vous dis, j'ai moi-même l'impression, on n'est pas habitué de penser en ces termes-là. C'est facile d'avoir du petit pudding pré-mâché, là. Mais là, on est dans la viande, la parole de Dieu, mais il faut prendre le temps de le comprendre. Les versets, si je résume les versets 3 à 8 qu'on vient de considérer ensemble, il y a trois affaires simples qu'on peut comprendre. D'abord, notre condition de non-régénéré, là, avant de connaître le Seigneur, était mort pour Dieu, vivant pour le péché. Okay? Séparé de Dieu, joint au péché. Ça, c'est avant qu'on soit sauvé. Okay? Maintenant, mort avec Christ, okay, avec ce qu'on a vu, là, qu'on a été baptisé avec Christ en sa mort, okay? On est mort avec Christ, ben, on est mort au péché avec Jésus-Christ et donc séparé du péché. La mort, c'est une séparation. Okay? Et donc, maintenant, ma condition de régénérer, là, de nouveau, de naître de nouveau en Jésus-Christ, c'est que je suis mort au péché, mais gloire à Dieu, je suis vivant pour Dieu. Je ne suis pas juste mort au péché, je suis vivant pour Dieu. Donc, je suis séparé du péché, puis je suis joint à Dieu.
Amen.
C'est vraiment winner là, comme affaire. Tu sais, séparé de l'ennemi, puis joint à celui qui est notre victoire. Fait que c'est ça qu'on vient de voir dans les versets 3 à 8. Pas si compliqué, n'est-ce pas? Bon, j'ai encore besoin de votre attention. Pour le dire autrement, tu sais, quand des fois on peut se disloquer quelque chose, on peut un membre. Dieu nous a disloqué, nous a désunis du péché, notre ancien maître. Il a brisé le lien. Puis il nous a scellé, il nous a joint. Tu sais, ça parle d'être greffé comme une... Tu sais, quand ça parle de dans Romains 11, là, il nous a hanté, il nous a pas hanté, là, E-N-T-E. Ouh, les petits fantômes. Mais il nous a, c'est greffé, qui est dans la Louis II, c'est un meilleur mot, hanté, c'est peut-être un peu ancien. Là. Il nous a greffé, il nous a scellé à Jésus-Christ par une relation indissociable. Ce que Dieu a joint, c'est indissociable. Puis là, on ne parle pas au niveau humain. Là. Okay? Un mariage, malheureusement, ça peut se dissocier, mais notre union avec Christ est indissociable parce que c'est Dieu qui l'a fait. Puis c'est Dieu. On le disait tantôt, on est assis dans les lieux célestes en ce moment. Là. Non, on parle de quelque chose là, qui est d'une grandeur incroyable. Donc, pour terminer avec les versets 3 à 10, les versets 9 et 10 nous parlent du fait que, bon, là je l'ai dit, en étant en Jésus-Christ, on est saint. Jésus est notre... ça c'est le troisième point, Jésus est notre victoire. Le deuxième fait, c'est que nous sommes libres de vivre dans la victoire. Et le troisième fait, c'est que Jésus, c'est lui notre victoire. Notre victoire, c'est pas quelque chose que je fais ou que je fais pas, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un avec qui je suis en communion. C'est ça ma victoire. Tu sais, ce qu'on dit là, on dit chercher le bien puis le mal. Cherche Dieu. En lui, tu as la victoire, tu as la paix. Tu sais, si tu trouves lui, tu trouves tout. Bon. Donc, on est identifié à Jésus dans sa mort et sa résurrection, qui lui a accompli la victoire pour nous sur la mort puis le péché. On n'a pas besoin d'essayer de le faire, il l'a fait pour nous. Il a tout accompli. Pour ça que ça dit au verset 9, regardez la vérité ici qui est proclamée, verset 9, sachant, la troisième affaire, hein, ignorez-vous, sachant verset 6, sachant verset 9. Donc, vous voyez, trois fois Dieu s'adresse à notre savoir, à notre connaissance, à notre pensée. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus a brisé la domination de la mort. Avant la mort, là, elle avait tout pouvoir sur nous autres. On était esclaves. Mais on ne pouvait rien faire. On était condamnés à mort. La mort était notre maître, avait tout pouvoir. Mais Jésus a brisé la puissance de domination du péché sur nous. Verset 10, il donne la raison de ça parce qu'on a le mot « car ». « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. La mort de Jésus-Christ au péché, pour nous, c'est saint, a accompli une fois pour toutes, a été accompli une fois pour toutes, et maintenant, on peut vivre pour Dieu. » En résumé pour ce point-là, par rapport au fait que... De ce que Dieu veut qu'on comprenne là, dans notre pensée par rapport au verset 3 à 10. En Jésus, on est libre, on est libéré de la puissance du péché, du pouvoir de la mort et du péché dans notre vie. Et donc, ce n'est plus notre maître, Nous sommes donc libres de vivre pour Dieu parce que la puissance de ce qui nous a servi ça a été brisée. On est maintenant libre de vivre. La vraie vie commence parce que on est mort. On était mort dans nos offenses et nos péchés, mais il fallait que Dieu nous fasse mourir avec lui pour être libéré de ça. Puis là, puis en naissant de nouveau, là, on peut vivre pour Dieu. Et donc, ça, c'est des choses que Dieu veut qu'on sache. On est saint, on est libre de vivre dans la victoire, et Jésus, c'est lui notre victoire. Et voici maintenant comment personnaliser ça. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut avoir dans notre tête, et c'est important de les comprendre. Mais Dieu veut amener ça, le personnaliser. Personnaliser les faits qu'on vient de voir sur notre sanctification. Et ça, c'est le verset 11. Regardez, c'est juste un verset. Ainsi, regardez-vous. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Après avoir présenté les faits, là, surtout, bon, on est mort avec Christ et on est vivant en lui. Là, ici, il y a le premier impératif du chapitre. Ici, là, ça dit, là, regardez-vous, là. Là, je vous donne l'ordre, là, voyez-vous de même. Et c'est spécial parce que cet impératif, ce commandement, s'adresse pas à notre volonté, mais ça s'adresse à notre pensée. Tu sais, ça dit pas, là, fais ça, tu sais, comme plus loin, ça veut dire présente tes membres. Non, ça dit, regarde-toi, ça s'adresse, ça dit, là, pense de cette façon-là, autrement. C'est pas quelque chose que tu as à faire, c'est quelque chose que tu as à penser. Il nous donne l'ordre de penser d'une certaine façon. Okay? C'est pas quelque chose que j'ai à faire en tant que tel avec mon corps. Donc, il dit de me regarder comme ça. Et là, c'est pour ça que je vois ici, il y a plus que juste la pensée. Il y a les sentiments, nos affections qui sont inclus là-dedans. Puis je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pour vous expliquer le terme « regardez-vous ». Dans la langue originale, c'est un terme comptable. Le même terme qui, dans chapitre 3, verset 28, je vais vous lire, chapitre 3, verset 28. « Quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Le servant là-dessus, je trouve qu'il a traduit mieux, ça dit « quand nous concluons ». L'idée, c'est qu'avec tout ce qu'il a présenté sur Christ et tout ça, on en vient à la conclusion là, que l'homme, là, il est justifié. Pas par les œuvres, mais par la foi. À la lumière de tout ce qu'on a vu, là, on fait le calcul comptable et on arrive à la conclusion que, c'est ça la bonne affaire. Que c'est ça l'idée ici de « regardez-vous ». Donc, autrement dit, il vient de nous dire des faits sur notre vie, mort avec Christ, vivant en lui. Puis là, à la lumière de tout ça, là, quand tu fais l'équation, tu arrives au bout, là, arrive à cette conclusion-là. Regarde-toi comme ça. OK? L'idée, c'est de se permettre d'être convaincu, d'arriver à quelque chose de plus, de dire « Oh, juste demain », parce qu'on a un constat des faits indéniables. À la lumière de tout ce que je vous ai dit, là, que c'est réglé en Jésus-Christ, là, tu devrais arriver là, à une conviction. Tu es mort au péché, tu es vivant pour Dieu. C'est plus que juste un assentiment mental, c'est une conviction dans le cœur. Moi, là, maintenant, là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu. C'est une conviction, là. C'est pas juste un assentiment intellectuel. C'est quelque chose qui nous propulse dans notre vie. Nos émotions sont là-dedans. Là. On est passionné par rapport à ça. Là. C'est pas juste, moi je suis de même, puis c'est un fait. Non, tu sais, je veux dire, ça vient me chercher. Là. Ça m'embarque entier. Là. Oui, c'est dans ma tête, mais je veux dire, par la conviction du Saint-Esprit, par le travail de Dieu dans mon cœur, ça me pogne tout entier. J'y mets tout mon cœur. C'est quelque chose qui n'est pas superficiel, c'est profond. Ça vient me chercher en dedans. C'est là le côté émotif. C'est pas de l'émotivité frivole, là. C'est comme une émotion profonde, une conviction, là. C'est fort en moi, là. Je prends à mourir pour ça, là. Tu sais, c'est... Je veux dire, tu sais, comme un père de famille, là. « Hey, tu toucheras pas à ma femme puis mes enfants, là, parce que... Hey, je les aime, là. » Puis tu sais, c'est fort en dedans de nous autres, comprenez-vous? Maintenant, le verset 11 nous apprend à passer de simplement une bonne connaissance, ok, les faits simplement, à la bonne pensée, c'est-à-dire qu'il y a une motivation, il y a une méditation face aux faits, il y a une orientation qui est active. C'est pas comme je dis, oui, je sais ça. C'est, non, je m'implique là-dedans, puis je me regarde demain, puis ça change de quoi dans ma vie, parce que là, je veux dire, le péché, c'est plus mon maître, je suis mort au péché. Hey, qu'est-ce que je fais avec un intrus de même? Puis je deviens, tu sais, passionné par rapport à ça. Ben non, le péché, c'est plus moi. Je suis vivant pour Dieu, là. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? Les émotions, ils ont quelque chose à voir là-dedans. C'est pas mauvais, des émotions, parce que les faits sont tellement grands que ça nous affecte en dedans. On a le droit, les enfants de Dieu, d'avoir des émotions, là, puis d'être un peu énervé des fois. Là. Là, je vous donne un peu un exemple, là, je m'énerve un peu, mais bon.
Faut pas dire ça tout de suite.
Hein?
Faut pas dire ça tout de suite.
Oui, c'est vrai, avec les petites créatures qui t'entourent. Si nous sommes convaincus, OK, dans nos sentiments, ou ça dit des fois dans nos affections, OK, par le Saint-Esprit concernant les faits qui sont amenés dans les versets 3 à 10, on va pas juste vivre en espérant que ça tourne bien, mais non, lorsqu'il va y avoir une conviction... Là, c'est une foi qui est vivante, c'est quelque chose qui nous anime, qui nous pousse, qui nous propulse, que quand on est face à ce qui nous fait peur, quand on est face à ce que... Ça va être une foi qui va aller au-delà de comment qu'on peut se sentir et être disposé, parce qu'on a une disposition plus forte qui surmonte ça. Ben non, je ne vais pas me laisser arrêter par ça, parce que ça, c'est du mensonge, ça, c'est pas la vérité, puis je suis convaincu que je dois marcher selon ce que Dieu a fait de moi. Je vous donne un exemple, ça va vous aider à comprendre. Tu sais, il arrive toutes des épreuves dans la vie, des affaires, où est-ce que des fois, tu es là, « Ah, mon ami, c'est complètement dehors de ma compétence, de ce que je suis capable de faire. » Dieu, dans sa grâce, il nous amène comme ça au bout de nous-mêmes. Puis, il nous fait la grâce de nous montrer qu'on est faible. Vous savez, c'est vraiment bon quand Dieu nous montre ça. Parce que c'est la réalité. Mais, pour que Dieu nous amène à ce point-là, bien souvent, on a besoin de se rendre compte que, tu sais, on essaye, on s'est pété le nez, puis tout ça. Mais quand il arrive à ce point-là, puis il nous fait la grâce de nous montrer comment on est faible, pourquoi Christ deviendrait ma force? Pourquoi que je me tournerais vers lui? Parce que j'ai cette conviction que je suis mort au péché, puis que justement, j'ai essayé de pécher, puis le péché, la chair, là, pas tout le temps le gros péché qui a l'air méchant, mais tu sais, le péché d'essayer soi-même, puis l'autosuffisance. Puis là, je me rends compte que mon autosuffisance, ça ne marche pas. Puis là, j'ai cette conviction-là, « Hey, je suis vivant pour Dieu. » Fait que là, je suis au bout de moi-même, mais c'est-tu quoi? Dieu, là, il faut que ça soit toi qui vive en moi. Il faut que ça soit toi. C'est impossible. Vous savez quoi? La vie chrétienne, c'est pas juste difficile. C'est impossible. Parce que qui a essayé bien fort la vie chrétienne, là? Puis là, qui ont trouvé ça difficile... On l'a dit tantôt, ça devrait être léger puis doux. Puis moi aussi, je dis, t'es pas tout seul, frère. Hein? Comment ça, moi, c'est pas léger puis doux? Pourquoi c'est off puis lourd? Parce que c'est moi qui essayais, puis Dieu, dans sa grâce, m'a montré, t'as-tu vu quand t'es simple? Puis c'est Dieu, dans son amour, sa patience. Puis pour ça aussi, il faut être patient les uns avec les autres, parce qu'on est tous dans le même bateau, mais pas avec les mêmes problèmes, les mêmes tendances nécessairement. Mais quand Dieu nous amène là, qu'est-ce que ça donne? Puis que là, on arrive à cette conviction profonde. Je suis mort à ça, à mon essayage, puis à mes tactiques, puis à mes tentatives de faire ci, puis ça, puis dans « il faut » puis « il faut pas ». Puis là, je suis vivant pour Dieu. C'est plus moi, c'est Christ qui vient en moi. Quand j'ai cette conviction profonde là, là, je vais voir ce que le Seigneur peut faire. Là, j'apprends à m'attendre à lui. Puis, je me rends compte, waouh! Finalement, c'est pas difficile. Finalement, c'est léger. Hey, je me rends compte de ça, là. Moi, c'est incroyable. Dans des patterns que j'ai eu tellement longtemps. Moi, là, tu sais, souvent dans les rationnements, c'est drôle, tu sais, la pomme tombe pas loin de l'arbre, je suis, tu regardes toi, puis toi. Tu sais, moi, je suis comme ma mère là-dessus. Tu sais, souvent, hein, c'est familial. Puis, moi, mon tendance, c'est souvent, ben là, ça me choque, ça n'a même pas de bon sens, puis là, je suis irrité. Pas crier puis casser des chaises, là, mais, tu sais, de pas être content, puis ben voyons donc, puis ma mère était même, mais franchement, ça donne, ben, tu sais, je fais des jokes des fois en limitant ma mère, mais tu sais, je suis exactement pareil. Mais sauf que je dis pas franchement. Ben, en vivant ce que je vous explique là, cette espèce d'irritation qui monte, puis ça, on dirait que la puissance est brisée. Puis des affaires que ça viendrait, puis Dieu nous teste, hein, il nous passe à l'épreuve, puis justement pour nous enseigner la foi, nous enseigner ça. Mais c'est même pas dur. Avant longtemps que ça me... C'est même pas comme... Tu sais, des situations qui avant m'auraient irrité, m'auraient fait tu sais, être pas content, puis tu sais, je sais pas, ça a pu cette emprise-là. Puis là, je parle pas, là, je parle pas en étant parvenu, là, mais je parle que, tu sais, quand on commence à expérimenter cette grâce, waouh, je veux dire, moi, j'en veux encore, là. Vraiment, là. OK. Donc, c'est ça, personnaliser. Romains 6, 11, c'est personnaliser les faits qui nous ont été présentés dans les versets 3 à 10. Et finalement, les versets 12 à 14, ça nous montre à dépendre. Donc, on a eu la pensée, on a les émotions. Puis là, la dépendance, ça, c'est tout le domaine de la volonté. Après avoir donné l'ordre par rapport à ce qui concerne notre pensée et nos émotions, regardez-vous comme... Maintenant, il s'adresse à notre volonté. Et il s'adresse à notre volonté d'abord avec deux ordres négatifs, des choses à ne pas faire, arrêter ça. C'est comme ça dit dans Romains 12:1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ben là, c'est un peu la même idée. T'sais, arrête ça pour pouvoir commencer ça. Regardez ce que ça dit au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. OK? Ici, c'est arrêter de vous placer sous l'autorité du péché, comme s'il était encore votre maître. T'es mort au péché, pourquoi tu lui donnerais tes membres comme si c'est lui qui décidait encore? Arrête ça, ça n'a pas rapport, parce que c'est plus ton maître. Donc, ta volonté, tu l'exerces d'abord de façon négative en n'offrant pas tes membres pour être sous l'autorité du péché. Puis, le début du verset 13, ça nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ici, c'est le deuxième impératif à ne pas faire. Non seulement arrêter de se placer sous l'autorité du péché en nous, mais aussi d'arrêter de présenter nos membres pour qu'ils deviennent complices au péché. Tu sais, le péché, comment il s'exprime? À travers notre corps. Mais donc, dans ma tête, je suis vraiment pas content, là. C'est là que je vais taper du poing. C'est là que je vais prendre ma bouche pour dire des paroles blessantes. Comprends? Là, mes membres deviennent un instrument d'iniquité. C'est que le péché qui est en moi s'exprime par mes membres. Ou quand mes yeux, mes oreilles regardent, écoutent ce qu'ils ne devraient pas, disent ce qu'ils ne devraient pas dire. OK? C'est que je prends mes membres et je les rends complices au péché. Ben, là, Paul dit, arrête ça. Arrête de donner au péché le moyen de s'exprimer et de se manifester. OK? Mais là, je veux dire quelque chose d'important. J'ai souvent dit, je l'ai répété, la meilleure façon de faire de quoi puis de tomber, c'est d'essayer de ne pas le faire. Fait que là, comprenez pas ici les arrêter. Ah, là, je vais vraiment essayer de ne pas offrir, mais... Non, non, il faut tout comprendre, c'est à la lumière de ce qu'on a vu, là. C'est que pourquoi je les offre? Parce que c'est pas parce que j'essaie, c'est parce que ça n'a plus rapport avec moi. C'est que maintenant, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je veux dire, je suis mort avec Christ, je suis vivant pour Dieu. Donc, pourquoi j'offrirais mes membres? Je veux dire, il y a un nouveau maître. C'est à la lumière, c'est pas que j'essaie, c'est à la lumière de ce que j'ai compris, puis ce qui est dans mon cœur comme conviction, voyez-vous? Pensier, émotion, puis là, ça donne une volonté régénérée. C'est pas l'idée de « Ah, oh, j'essaye fort ». Non, c'est que à la lumière de ce que je suis, ben c'est ça que ça donne. Il y a une distinction là. C'est pas comme, hey, ben là j'essaye bien fort là. Et je veux pas offrir mes membres. Moi, je l'ai souvent entendu, même j'ai déjà entendu des fois flyer au-dessus des versets 1 à 11, puis vraiment le mettre le paquet dans 12 et 13. Là, vraiment votre volonté, il faut essayer fort. Non, tu peux pas arriver au verset 12 et 13 si t'as pas pensé par les versets 3 à 11. C'est tout un, on dit en anglais un building up. Ça se bâtit un sur l'autre, ok? Puis là, finalement, il y a l'ordre de commencer quelque chose. Hein? Comme ça dit, conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez transformés. Bien là, ici, ça nous dit de commencer, ça dit à la fin du verset 13. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Voyez-vous encore comment il y a toute cette notion-là que c'est à la lumière de ce qu'on est. Comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, voyez-vous que c'est vraiment l'offrande d'une pensée, d'un cœur régénéré. Là. C'est pas juste dire, ah, je vais faire ça même de façon indépendante. Non, c'est dans ma dépendance, dans ce que Dieu a fait de moi, je m'offre à la lumière de ça. Ça, c'est vraiment important à comprendre. On est encore dans le survol, mais en tout cas, on va y aller plus en détail quand on va être rendu là. Mais Autrement dit, ce que ça nous dit, commencez à vous placer sous l'autorité de Christ en vous, afin que vos membres soient présentés à lui comme ses instruments de justice. Vous appartenez plus. Il est votre tête. Qu'est-ce que ça fait? Un corps, ça suit les ordres de la tête. Christ est notre tête. Christ est et notre autorité. Ben, un corps, ça l'obéit à sa tête, ça l'obéit aux commandes. Fait que c'est ça qu'il dit de faire. Parce que c'est ce qu'on est. Ça part vraiment de ce qu'on est. De ça découle ce qu'on fait. Alors que souvent, dans la mentalité du faire, mais parce que je fais ça, je suis. Mais parce que je donne mes membres, là, je suis un bon chrétien. Non, tu peux donner tes membres toute ta vie à Dieu, mais vraiment de m'arracher comme chrétien parce que tu mets la charrue avant les bœufs. Non, à cause que Dieu a fait de moi ce qu'il a fait, j'offre. C'est pas pour avoir quelque chose, c'est parce que je suis quelque chose. Voyez-vous la distinction? Donc, on a le choix. Lorsque nous nous soumettons, de se soumettre dans l'humilité, de céder, de s'abandonner à Dieu. Et ça, c'est le choix de la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair, parce qu'on est tous pognés avec une chair, jusqu'à temps qu'on meurt, on vit dans la foi au fil de Dieu. Fait que tout ce qu'on a vu, là, c'est la foi, on croit à ça, on croit que ce n'est pas juste des belles vérités dans un livre, on croit que c'est ce que Dieu a fait avec nous autres. On le pense, on en est convaincu, puis on agit à la lumière de ça. Voyez-vous comment ça va tout ensemble? Pour ça, je voulais vous prendre le temps de vous montrer la dynamique ici. La pensée, nos émotions, comment ça nous affecte profondément, puis après ça, comment ça affecte notre volonté. La volonté vient en dernier là-dedans. C'est spécial parce que souvent, moi, j'ai mis la volonté en premier dans ma vie. Mais une volonté non régénérée, non soumise à Christ, ça fait n'importe quoi. Ça peut bien paraître, mais c'est n'importe quoi pareil. Parce que c'est pas le bon point de départ. Donc, je termine avec ceci. Ce précieux passage que Dieu met devant nous, dans le fond, ça nous donne le choix de céder ma pensée, mes émotions, en passant sur les émotions, je suis un petit mot, là. Le verset 11, quand ça dit « Regardez-vous comme mort au péché », là, c'est croire à ce que je suis, même si je ne me sens pas de même. Ah, mais je me sens pas mort au péché, je me sens bien trop vivant. Il me semble que le péché, il y a donc bien de l'attrait dans ma vie. Il y en a-tu qui se sentent de même? Voyons, le péché, il me semble, je me sens. Non, non. Croire, là, se voir de même, c'est même si je me sens pas mort au péché, puis je me sens pas trop vivant pour Dieu, c'est pas grave. C'est pas là-dessus que je me fie. Je me fie au fait plus qu'à comment je me sens, parce que les émotions sont trompeuses. Comment je me sens? Ça ne reflète pas toujours la réalité. Je me lève un matin, là, puis là, je me sens tout de travers. Est-ce que je ne suis plus en Jésus-Christ? Est-ce que je ne suis plus mort au péché, vivant pour Dieu? Non, ça n'a pas changé. Mais moi, je ne me sens pas de même. C'est quoi le problème? C'est ce que Dieu a fait de moi ou c'est comment je me sens? C'est comment je me sens. Dieu, ce qu'il a fait, ça n'a pas changé. OK? Fait que c'est ça, se voir au péché. Fait que nos émotions, là, faut faire attention, ils peuvent nous tromper. Donc, j'ai le choix de céder à ma pensée régénérée, mes émotions régénérées et ma volonté régénérer pour dépendre de Jésus-Christ pour qu'il vive sa vie de victoire à travers moi. C'est ça l'arbre de vie. C'est ça, dépendre de Dieu par une relation avec lui. C'est tellement mieux que juste un code de bien, de mal, fais ci, fais pas ça. Non, c'est Christ qui vient en moi. Et je termine avec le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La vraie liberté, c'est celle d'être sous la grâce. Parce que ça dit ici, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque à cause que vous n'êtes plus... puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché... C'est la loi. Pour ça, je vous dis, si je dis aux chrétiens, hey, là, il faut vraiment qu'on se mette à faire ça, puis il faudrait vraiment... On est en train d'attiser la chair, puis on va le faire. C'est pour ça que je pense que l'alliance, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on est comme en train de signer notre arrêt de mort. De, hey, on veut vraiment pas faire ça, là, puis on t'aime, Seigneur. Mais c'est parce qu'en faisant ça, on choisit l'arbre. On dit, ben là, s'il fait ci, puis ça, puis c'était toutes des bonnes intentions, mais je pense que c'est orienté vers l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Alors que... Quand on voit de l'autre côté, vivre sous la grâce. Christ, la grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est Christ lui-même, c'est notre vie. Et vivre sous la grâce, c'est vivre par sa vie. C'est pour ça que lorsque le péché a plus de pouvoir sur nous, parce qu'on est sous le règne de Christ, c'est sa vie qui vit. Fait, Jésus a vaincu le péché. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de trop vous en dire, là. Oh, man. Je suis quasiment désolé, mais je suis pas désolé, mais... En tout cas.
Un peu trop de la parole de Dieu.
Oui, mais... Non, mais je consens que vous êtes fatigué. Mais, regardez, notre frère en parlait, c'est bon ce que tu disais, Dave, tu sais. Donner du temps, Dieu est patient. Tu sais, on parle de liberté chrétienne, là. C'est bon, la liberté chrétienne, là. C'est bon d'avoir la liberté d'être faible. Puis de faire des erreurs. D'admettre ses torts, d'être vulnérable, d'aimer quelqu'un différent. Avez-vous essayé ça? D'aimer quelqu'un qui vous dérange, ça c'est de la vraie liberté. C'est ça que Dieu nous enseigne. Lorsqu'on se présente entièrement, pensée, émotion, volonté à lui, le péché en nous ne va plus nous dominer, parce qu'on n'est plus sous cette loi, mais on est sous la grâce de Dieu, et c'est lui qui nous rend capables. D'une vraie liberté. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, merci. T'es doux, t'es patient, doux et humble de cœur. Et Seigneur, merci que tu nous fais vivre ta parole, des choses qu'on a lues pendant des années, qui semblaient à des années-lumière, qui semblaient théoriques. Tu nous les enseignes, tu nous apprends Christ. Oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux, Seigneur, et je me sens comme un enfant à la petite école en première année qui apprend à écrire puis à compter. On dirait que tout est comme nouveau. Mais Seigneur, merci que tu nous apprends à marcher par la foi, puis on est ensemble là-dedans. C'est vraiment beau, Seigneur, parce qu'on peut s'encourager, puis oui, se juger, puis de dire que lui, il est pas fin parce qu'il a pas compris, ou elle... Comment ça qu'elle ne voit pas encore ça? Non, Seigneur, ça change complètement notre approche même de nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, que ton œuvre, elle est parfaite, elle est belle. Et merci pour Romains 6, qu'on commence à regarder vraiment ensemble de façon plus sérieuse. Et je suis conscient que, en tout cas, je me sens vraiment comme dépourvu, mais Seigneur, je me réjouis tout le temps que c'est toi le vrai enseignant. C'est toi qui parle à tes enfants, qui les enseigne. Donc, Seigneur... À toi la gloire et l'honneur et en tout point, Seigneur, puisses-tu être celui qui, au milieu de nous, est célébré et exalté. Parce que, Seigneur, c'est toi le seul qui le mérite. Et on te remercie pour ça. Au nom de Jésus. Amen.